Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous écoutez Jeudi Noir, donc comme un jeudi sur deux, quand il n'y a pas cinq jeudis dans le mois. Bon, je pense que vous y retrouverez. Vous venez d'entendre en musique d'introduction un petit morceau d'Oberkampf, C'était une reprise de la Marseillaise. Oberkampf est un groupe punk français des années 80, si je ne me trompe, un des rares de cette époque-là à ne pas avoir usé et abusé de la boîte à rythme.
Faut que ce soit dit, t'as raison.
Ah oui, non, faut que ce soit dit, parce que les choses doivent être remises à leur place. Je n'aime pas les boîtes à rythme. Donc, et c'était tout à fait, dans notre sujet, ce petit morceau d'Oberkampf, puisque ce soir, nous allons vous parler de la morale à l'école.
Républicaine.
Donc, la morale républicaine, oui, à l'école. Mmh. Évidemment, nous allons la défendre bec et ongle.
C'est doublement dans le sujet, parce que comme le faisait remarquer José, qui est aux platines, Oberkampf est à deux stations de République.
Là, je peux plus. Donc, à partir de quoi allons-nous vous parler de ceci, donc de la morale républicaine à l'école, à partir de deux ouvrages de Ruhen Ogien. Alors, c'est un nom qui est imprononçable, hein. Vous m'excuserez, donc son prénom c'est Ruven ou Ruhen.
Ruhen.
Oui, peut-être, une troisième possibilité, donc R-U-W-E-N, Ogien, O-G-I-E-N. Et donc, c'est un philosophe. Qui a écrit récemment un premier ouvrage qui s'intitule « L'État nous rend-il meilleur ?», qui a été publié dans la collection Folio Essai chez Gallimard. On parle de Gallimard, c'est la honte. Un deuxième ouvrage, « La guerre aux pauvres commence à l'école », sur la morale laïque, qui cette fois-ci a été édité chez Grasset.
Ce qui est beaucoup mieux.
Ce qui est à peu près aussi pire. Donc, donc il ne manquerait plus que le seuil, et je pense qu'on aurait fait le tour de l'édition, monopolistique française. Donc, pourquoi est-ce que... Donc, ce sont deux ouvrages qui nous ont semblé intéressants. Alors, je vais d'abord essayer de poser un peu le cadre, si vous voulez, des thèses d'Ogien, qui sont exposées dans l'État nous rend-il meilleur, et qui justifient en grande partie le deuxième bouquin, donc la guerre aux pauvres commence à l'école. Dans cet ouvrage, il commence déjà par se situer politiquement, et ce qui est très clair, puisque c'est explicite, c'est que dans nos façons de concevoir la justice sociale et les libertés individuelles, la pensée conservatrice a acquis aujourd'hui une certaine hégémonie, là je le cite, intellectuelle, dans la vie publique des sociétés démocratiques les plus prospères. Et donc, voilà, l'idée de la pensée conservatrice est hégémonique, et elle s'exprime sans complexe dans tous les camps politiques, et quelle que soit la couleur du gouvernement. Jean-Mathias ?
Ouais, je me permets juste avant de rentrer dans le détail de ce bouquin-là, peut-être juste dire deux mots quand même sur Ruhen Ogien, parce que c'est un type assez marrant, en fait, quand même, dans le paysage de la philo morale et politique. C'est quelqu'un, bon, qui est effectivement une soixantaine d'années, au moins.
Hein, il refuse de donner l'âge de sa date de naissance.
Du capitaine, enfin, donc il est dans ces eaux-là. Bon, moi, je le situerais autour de ces eaux-là. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, pas mal de bouquins sur des questions de philosophie morale un peu pointues et un peu techniques, et aussi sur des questions beaucoup moins technique, apparemment en tout cas, notamment un certain nombre de livres sur la pornographie et sur les discours philosophiques et moraux qu'on peut, doit ou qu'il est souhaitable de tenir sur la pornographie. Donc il y a un certain nombre de sujets comme ça, un peu atypiques, on va dire. Et de manière générale, en général, on perd pas son temps à lire les livres de Ruhen Ogien, qui sont informés, ça c'est sûr, souvent techniquement très rigoureux, et en même temps pas chiant.
Assez accessible.
Voilà, pas chiant et pas ciblé uniquement sur un public d'universitaires. Donc il y a une bibliographie qui est intéressante, et faut le signaler quand même. C'est pas simplement un spécialiste obscur dans sa chaire au CNRS. Et donc effectivement, par contre, à ma connaissance, jusqu'à présent, il a surtout travaillé sur des questions morales. Et là, avec ces deux livres que tu as présentés, donc sur l'État et sur la morale laïque à l'école, il s'attaque à des questions qui sont plus directement politiques. Et notamment le livre dont tu parles là, hein. Donc c'est important.
Oui, c'est un pas qu'il fait. Qu'ici, c'était plutôt quand on a des questions morales. Pour ajouter à ta présentation générale, je peux aussi ajouter qu'il a pas mal d'humour.
Il y a pas mal d'humour, ouais.
Ce qui cache rien, et il a un style, je trouve, qui est intéressant en général, là aussi, indépendamment des deux livres que nous allons vous présenter ce soir. C'est que il a un style qui est assez accessible. Mais il ne sacrifie pas non plus aux sirènes de la vulgarisation facile.
Non, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'argument, il y a toujours, c'est très informé, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup les débats contemporains, notamment la littérature française, mais aussi anglo-saxonne et étrangère, de manière générale. Donc, c'est un bon philosophe. Voilà.
Voilà. Ouais, donc, si vous voulez lire de la philosophie et que vous n'êtes pas philosophe de formation, ben, plutôt que de perdre votre temps avec BHL, Onfray et consorts, ben, vous pouvez lire Augien, parce que il reste accessible, mais lui, ben, il est sérieux.
Voilà, avec notamment, je vous donne juste pour le plaisir quand même, 2011, un titre. Le titre de l'avant-dernier, puisque le dernier, c'est ceux dont on vous parle, qui sont sortis cette année. Et son avant-dernier livre, le titre, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale.
Voilà. Bon, je peux pas déterminer l'influence des croissants chauds, moi. Mais bon, peu importe. Donc, je vous disais, avant d'être interrompu judicieusement par Jean-Mathias, que Owen avait le sentiment que, Augien avait le sentiment que la pensée conservatrice était devenue hégémonique dans tous les secteurs dans beaucoup de secteurs de la vie politique, sociale et intellectuelle. Et lui, il ajoute que cela n'a rien de réjouissant pour tous ceux qui, comme je le suis, je le cite, hein, restent séduits par la perspective d'une société beaucoup plus égalitaire du point de vue économique et social, mais aussi beaucoup plus libertaire du point de vue des mœurs. Et donc, ça va être un petit peu le fil rouge de son bouquin, c'est-à-dire que il le conçoit un petit peu comme une espèce de machine de guerre aussi contre la pensée conservatrice. Et de ce point de vue-là, même si ce n'est pas un anarchiste, de toute évidence, parce qu'il ne questionne pas la légitimité de l'existence de l'État en particulier, ni même celle de l'appropriation privée la majorité des biens produits, il reste assez radical quand même par rapport au champ politique dans lequel il se place. Et ce serait peut-être intéressant de voir jusqu'où on pourrait faire aller ses théories, de ce point de vue-là d'ailleurs. Donc, et en particulier, donc je vous disais, qu'est-ce qui va attaquer à partir de sa vision, c'est la vision moraliste des urgences politiques qui est systématiquement mise en avant par la pensée conservatrice. C'est-à-dire qu'il va chercher à démoraliser, entre guillemets, le débat politique. Ce qui ne peut être, à mon avis, qu'une bonne chose. Mais, donc, voilà, comme il le dit, je le cite, pour citer un peu les choses, pour ceux qui la propagent, donc la vision moraliste des urgences politiques, le problème principal de nos sociétés n'est pas l'accroissement considérable des inégalités de richesse et de pouvoir, le traitement inhumain des immigrés sans papier, ou les atteintes à la vie privée par le fichage clandestin et la surveillance illégitime des communications. Non. Ce qui les préoccupe, c'est l'effondrement d'un certain ordre moral, fondé sur le goût de l'effort, le sens de la hiérarchie, le respect de la discipline, le contrôle des désirs, la fidélité aux traditions, l'identification à la communauté nationale et la valorisation de la famille naturelle et hétérosexuelle. Et donc, évidemment, pour les gens qui défendent tout ça, leur priorité, c'est pas d'améliorer la condition économique des plus défavorisés. C'est de restaurer l'ordre moral. Donc, Owen, lui, il va pas chercher à expliquer comment la pensée conservatrice est devenue à ce point hégémonique. Il n'est pas historien, il ne demande pas quelles sont les causes de tout ça. Mais en tant que philosophe, il va essayer de montrer pourquoi il est convaincu que nous avons de bonnes raisons, et pas qu'un simplement des raisons personnelles et purement subjectives, de penser que les idéaux égalitaires, les idéaux politiques égalitaires et libertaires valent mieux que la pensée conservatrice. Donc de ce point de vue-là, j'aurais tendance moi à le voir plutôt comme un allié qu'autre chose.
Ce qui est sûr, c'est que enfin moi, ce qui m'a paru intéressant dans son bouquin sur la morale laïque là, contre la morale laïque plutôt, dont on va parler après. C'est vrai que ça, le fait de recentrer finalement la question des débats politiques aujourd'hui entre progressistes et conservateurs, ben, finalement, c'est pas si fréquent. Et en fait, je trouve que c'est une grille d'entrée qui est assez percutante. Alors, je sais pas si ça dit tout et si ça nous donne les solutions pour tous les problèmes politiques qui se posent aujourd'hui, c'est probablement pas, mais c'est vrai que cette manière évidemment de qui est très classique hein, de remettre au goût du jour ce vieil antagonisme là est assez percutant. Je pense que c'est lié aux mutations de la droite. Et de fait, on a une droite qui est en train de jeter le masque, en fait, depuis quand même quelques temps, et qui, alors que pendant des années, elle a endossé un peu les habits de la modernité, du réformisme, etc., est en train maintenant, ouvertement, finalement, de reprendre voilà, ce qui est son code génétique, à savoir voilà, le conservatisme social, politique et moral. Et le fait de remettre, finalement, au cœur du débat politique cet antagonisme-là me paraît assez... Assez pertinent.
Je pense que c'est assez rare parce que la gauche, elle, enfin la gauche, la soi-disant gauche du gouvernement, elle, n'a pas jeté le masque. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la confusion est totale entre conservateurs et progressistes. Puisqu'on peut avoir que des conservateurs au gouvernement, mais il y a des conservateurs qui vont se dire progressistes de droite, des conservateurs qui vont se dire progressistes de gauche. À partir de là, c'est clair que dans le débat idéologique ambiant dans la grande presse, l'opposition entre conservateurs et progressistes, elle n'a plus de sens. Pour les médias dominants et pour les politiques dominants qui ont des chances d'avoir un strapontin,
c'est sûr qu'après une campagne à la Ségolène Royal, voilà, les lignes sont brouillées. Mais en fait, la droite a joué aux habits réformistes traditionnellement de gauche. La gauche a essayé de s'aligner en prenant des habits de droite conservateurs, sauf que la gauche n'a pas encore compris que la droite s'est terminée. Enfin voilà, eux ils retournent aux bons vieux fondamentaux et puis voilà. Et je trouve ça assez c'est un peu à la serpe là tout ça, mais effectivement, c'est assez efficace. En fait, ces analyses de ce point de vue-là, parce que remettre le débat autour de cette question, et finalement, c'est peut-être une question assez d'actualité.
C'est sûr. Et donc, à partir de là, il va s'interroger sur ce que c'est que la liberté politique. C'est sa première question, et sur le comment dire, de façon corrélative aussi, bien évidemment, pour lui, le rôle de l'État. Parce qu'il ne s'intéresse qu'à la liberté politique, il ne se pose pas la question de savoir si l'homme est libre,
en général,
de façon métaphysique. Est-ce qu'on est différent des animaux ou des ordinateurs, fondamentalement? Il évacue cette question, qu'il trouve confuse et insoluble. Donc il va poser la question directement sur le plan politique. Et là, il reprend une opposition assez classique en philosophie, qui est celle qui avait été faite par Isaiah Berlin dans une conférence faite dans les années 50, je crois, qui s'intitule « Deux concepts de la liberté ». Ça a été traduit par « Deux conceptions de la liberté », mais c'est pas terrible, parce que Isaiah Berlin va montrer qu'en fait, il y a deux concepts de liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait dire qu'il y a la liberté et puis la liberté prime, mais elles sont radicalement différentes et elles ont rien de commun pour Berlin, et elles sont même opposées. Et de ce point de vue là la liberté, c'est la distinction qu'il va faire entre liberté négative et liberté positive, et ces deux libertés sont aussi distinctes l'une de l'autre que pourraient l'être, la sécurité et la justice. En fait, c'est deux concepts qui n'ont rien à voir. Ils portent le même mot, le même nom, mais c'est plutôt une source de confusion qu'autre chose. Et Augien, lui, va défendre de bec et ongles dans tout son ouvrage la liberté négative. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la liberté négative? Donc, il la reprend de Berlin, en la précisant, en l'amendant, en discutant beaucoup autour de cette idée, c'est que finalement la liberté négative, c'est celle que l'on cherche quand on veut n'avoir aucun maître extérieur. C'est-à-dire que quand est-ce que je suis libre du point de vue de la liberté négative, c'est quand personne ne peut intervenir dans mes actions, dans mes choix, que ce soit de façon actuelle ou potentielle. C'est ce que précise Eugien par rapport à Berlin. C'est que, imaginez que, par exemple, nous vivions sous un régime despotique mou et bienveillant. Le despote se fiche un peu de savoir ce qu'on fait tant qu'on ne nuit pas à son pouvoir, mais il pourrait nous empêcher d'agir. Ben, tant qu'il peut le faire, nous ne sommes pas vraiment libres. Parce qu'il y a cette menace qui plane tout le temps, que notre liberté soit entravée. Mais c'est pas beaucoup plus que ça, finalement, la liberté négative. Voilà. Je suis libre quand personne ne m'empêche d'agir, ou quand personne ne peut m'empêcher d'agir. Et c'est opposé à la liberté positive, qui, elle, consiste à, finalement, où l'idéal, ce serait d'être maître de soi, c'est-à-dire, finalement, agir suivant le bien, suivant ce qui est juste, suivant tout un tas de normes. Et finalement, c'est un idéal perfectionniste. C'est-à-dire que par rapport à cet idéal, il y a plein de gens qui ne sont pas vraiment libres. parce qu'ils agissent pas selon la raison, pas selon la justice, pas selon ceci, pas selon cela, ils se détruisent, ils prennent de la drogue, ils se prostituent, ils font tout un tas de choses qui, par rapport à cet idéal de liberté positive, témoignent de leur aliénation et du fait qu'ils savent pas vraiment ce qui est bien. Et de ce point de vue-là, Augien va toujours critiquer la liberté positive parce que pour lui, elle sert systématiquement à imposer des contraintes aux gens qui ne font pas ce qui est supposé être bien, rationnel et comme il faut. Donc tout son bouquin, enfin il y a tout un grand chapitre justement où il va critiquer cette notion de liberté positive. Et donc il dit à première vue pourtant c'est une doctrine solide qui repose sur des jugements de bon sens. La liberté, alors là il cite des choses, hein, ce n'est pas la licence, la débauche. Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est faire ce qui est bien. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Être libre, ce n'est pas échapper à toute contrainte. C'est obéir à la loi quand elle est juste. Et donc, Augien va prendre un malin plaisir à démonter à peu près tout ça. En particulier, il aime beaucoup s'attaquer à l'idée que être libre, la liberté, c'est l'obéissance à la loi juste. Qu'il a tendance à comparer à ce que peut dire Orwell là-dessus. L'obéissance, la liberté, c'est l'obéissance, ou c'est l'esclavage plutôt. Freedom is slavery, la liberté, c'est l'esclavage. Donc, voilà un petit peu, le contexte. On va vous passer un peu de musique. Et puis ensuite, il est fort possible que je laisse à Jean-Mathias le soin de rentrer dans le concret.
Dans la polémique.
Voilà.
Ouais, musique.
We are gathered here tonight to pay tribute to our Lord and money unto me. O Lord in heaven, let us pray. You TV viewers, give me your pay and sing. Cause of the people in the real world, Kylos have spoken to us. Kylos said, here I am, say Kylos, you come about the news. Anybody who puts on a swimming pool, she's on stage for the landing pad. Yes, Kylos said, here I am, try to say that Kylos, son of a bodies, let your emotions seal your mind. Too dark, it was a bad story, but I won't see no son of a sailor witch trap. Stylian falls into the middle of the night, very possible to see things alive. That's the way I'm gonna play my mind. Oh, Kylos said, here I am, say blow it out your ass. Yes, I will blow it out your ass. Let me help, blow it out your ass. Or wait, guess what's wrong with a mind of my own? You don't want to push through a bad control. Don't you want a better feeling like fast on the problem? Now you want to force some brain school. God instead of your such a fool. Land of war with the weather ran. Get the police over the school that I slammed. This is such an even old button and hang. Pick up the phone and turn it away. Say blow it out your ass. They know it, blow it out your ass. Those shall be ramming up your gun. I mean, you're alive. God instead, you're alive. Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, c'est 89.4, et c'est l'émission Jeudi Noir qui reprend pour la deuxième, sur sa deuxième partie. Donc nous avions commencé à vous présenter les idées d'un philosophe français contemporain qui se nomme Rouhenogien. Et donc je vous parlais de... Je fixais un peu le cadre à partir d'un ouvrage qui s'intitule « L'État nous rend-il meilleur ?» qui a été publié par les éditions Gallimard dans la collection Folio Essai. Et voilà, donc vous venez d'entendre deux morceaux de musique. Le premier, c'était les Dead Kennedys, donc un morceau, enfin un groupe californien des années 80, qui s'intitulait Moral Majority, la majorité morale. Et ensuite, c'était un morceau un peu plus violent de Napalm Death, donc la mort au napalm, qui est un groupe, lui, anglais, si je ne me trompe, lui aussi des années 80, et donc c'est du bon gros métal qui tâche et qui est très très bon. Et donc c'était Moral Crusade, donc la croisade morale. Voilà, pour les morceaux que vous avez entendus. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Jean-Mathias, qui va rentrer dans la polémique et qui va se faire des ennemis, tandis que moi je suis resté prudemment en retrait, et qui va nous parler de la guerre contre les pauvres, c'est ça, c'est la guerre ?
La guerre aux pauvres commence à l'école.
La guerre aux pauvres commence à l'école, donc publié chez Grasset, ça fait du mal de le dire, Rouhenogien. Par pitié, si vous pouviez publier chez les vrais éditeurs, ce serait agréable. Vas-y Jean-Mathias.
Oui, alors bon, donc j'enchaîne par rapport à la présentation que tu viens de faire sur le livre un peu plus théorique, on va dire, qui s'appelle donc L'État nous rend-il meilleur. Donc les deux sont sortis en même temps, je pense que c'est par hasard, parce qu'il y en a vraiment le cadre un peu théorique, on va dire, sur celui que tu viens de présenter.
D'autant plus qu'il rentre dans la question de la morale laïque, voilà. Républicaine. Dans cet ouvrage déjà.
Voilà, donc, et il y a un chapitre, hein, si j'ai bien compris, un chapitre de ce livre là sur l'État nous rend-il meilleur, qui est consacré à la morale laïque en tant que telle. Et donc moi, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est donc le livre qui s'intitule La guerre aux pauvres commence à l'école, sous-titre sur la morale laïque. C'est, bon, ça vient de sortir, hein, donc c'est sorti en février là, de cette année. Et évidemment, c'est un texte d'intervention un peu de circonstance, puisque ça fait suite au projet du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, de réintroduire un cours de morale laïque évalué, s'il vous plaît, à l'école pour régler un peu les problèmes fondamentaux auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Donc c'est le projet de Peillon, donc c'était pareil, début d'année, quoi. Et donc ce texte-là, alors c'est un texte qui est un peu plus, sous forme de pamphlet, hein, donc ça fait 150 pages, c'est écrit gros, et puis c'est efficace, et c'est plutôt censé provoquer le débat, essayer de pointer un certain nombre d'absurdités dans la manière dont le projet de Peillon est présenté. Voilà. Alors, sur le fond, de quoi s'agit-il ? Donc Peillon, alors pour ceux qui ne le savent pas, Peillon, c'est un philosophe aussi de formation. C'est comme ça. Donc, il est philosophe de formation et il est spécialiste, notamment du socialisme français et en particulier du socialisme français sous la Troisième République. Donc, c'est un spécialiste de Jean Jaurès, notamment. Mais par la même occasion, il est aussi très spécialiste de toutes les grands penseurs de la République et de l'école républicaine.
C'est là qu'on voit que finalement avoir des connaissances, ça sert à rien, parce que Jaurès. Même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, il y avait au moins la volonté de, peut-être, je sais pas, changer quelque chose dans la répartition des richesses
en France. C'est compliqué, tu sais Michel, qu'aujourd'hui les choses sont plus compliquées, sont infiniment compliquées.
Et qu'on ne peut plus rien changer parce qu'elles sont trop trop compliquées.
C'est trop compliqué.
Alors, c'est donc, vrai, j'avais oublié, désolé Jean-Mathias.
Bon, mais on va pas parler de Vincent Peillon toute la soirée, parce que Vincent Peillon,
ça fait long. On n'aura pas grand-chose à dire.
Voilà, bon, c'est long quoi, sur Vincent Peillon. Alors Vincent Peillon, il est spécialiste de Jaurès, il est spécialiste de la Troisième République, et il pense que un des problèmes fondamentaux de l'école aujourd'hui, c'est en fait le caractère un peu immoral des élèves ou amoral des élèves, c'est-à-dire qu'en fait tous ces élèves-là, bon, alors entendez des élèves qui ont des difficultés scolaires et qui sont un peu plus basanés que la plupart, pour dire les choses, et qui même sont, on dirait, d'un background culturel qui n'est pas finalement, qui n'est pas exactement le nôtre, quoi, hein, disons les choses, donc qui sont un petit peu influencés par certaines pensées religieuses venues de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Donc le problème de l'école aujourd'hui, d'après Vincent Peillon, il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il le pense très fort, c'est qu'il y a un problème de morale, et il y a aussi un problème de morale laïque à l'école. Donc l'idée de Vincent Peillon, c'est de réintroduire des cours de morale laïque. Alors moi, j'avoue que bon, on est un peu peu du métier avec Michel, mais bon, les réformes, les réformes se passent les unes après les autres. Bon, on a tendance à les laisser un peu passer et à pas forcément s'intéresser aux détails. Alors, à l'occasion de ce livre de Rowen Augien, qui s'intéresse à ce projet-là, ça donne un peu le vertige parce qu'on voit ce qui est prévu. Alors, ce qui est prévu, c'est effectivement de réintroduire des cours de morale laïque qui vont être donc avec des professeurs formés pour la discipline en question et qui vont être évalués en classe avec les élèves. Et Rowen Augien, en fait, il pose une question très simple. Il dit, mais alors, chiche, c'est-à-dire, quels vont être les programmes et comment vous allez évaluer ça? Alors, concrètement, bon, il pose après, donc ça, c'est pour un peu pour la blague, mais après, il rentre un peu dans le détail en essayant de montrer, si vous voulez, tous les problèmes philosophiques qui sont soulevés par un projet de ce genre. Alors, je vous donne le plan du bouquin. Bon, évidemment, il n'est pas dupe de la manœuvre, c'est-à-dire que, d'après lui, il s'agit simplement de faire diversion sur des problèmes qui sont très matériels, en réalité, à l'école, c'est-à-dire un manque criant de besoins, et puis, finalement...
De moyens. On n'a pas de besoins.
Oui, de moyens, excuse-moi. Et au fond, une espèce de renoncement que personne n'ose avouer, mais de renoncement à une ambition qui serait celle, de rétablir une égalité des chances réelle dans ce pays. Donc, comme personne veut le dire comme ça, et comme personne veut dire qu'on arrête de faire de l'éducation une priorité et d'y mettre les moyens qui sont nécessaires, en gros, on parle d'autre chose, quoi. Donc, on va parler d'autre chose, on va parler du niveau de l'absence de moralité des élèves, de leur absence éthique, de leur absence, tout ça. Et donc, on essaie d'introduire des choses en gonflant un peu les pectoraux sur le retour de la morale à l'école.
Tout ça, c'est quand même, ça doit émaner de gens qui n'ont pas mis les pieds dans un lycée depuis 40 ans. Parce que, un des problèmes parfois que je verrai avec mes élèves, c'est qu'ils sont ultra moraux.
Ils ont des principes moraux.
Ils ont des principes moraux et des principes moraux robustes. Hein. Ça, c'est mal. Ouais. Ça aussi, c'est mal. Et ça, c'est encore plus mal.
Après, je suis peut-être moins optimiste que toi parce que je pense que le demande de retour...
C'était pas optimiste, ce que je disais.
Non, c'est pas optimiste sur les élèves, mais on n'est pas non plus optimiste particulièrement sur les enseignants parce que moi, je connais un certain nombre de collègues qui appellent à corps et à cri un retour de la morale à l'école. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce projet de Payon, il est aussi porté par une partie de la profession.
Oui.
Par nous, non.
Mais enfin, par nous en tant qu'individu, mais par nous.
Il y a aussi des collègues, alors peut-être pas tous, faut pas non plus, mais il y en a qui, voilà. Donc, alors, ce qu'il souligne, en fait, c'est que c'est une espèce de serpent de mer, cette histoire du retour de la morale à l'école, c'est-à-dire qu'en gros, c'est après 68 que c'est supprimé cette affaire-là. Et on laisse tomber la question de la morale en disant c'est trop compliqué parce que la morale laïque, on sait pas ce que c'est exactement. Déjà, la morale, c'est compliqué à définir. La morale laïque, ici, c'est encore plus compliqué. On sait pas s'il y en a une, s'il y en a plusieurs. Enfin, tout ça est effectivement délicat, on va dire. Quant à savoir comment on va l'évaluer et comment on va la transmettre, c'est encore un autre problème. Mais donc, en 68, on constate prudemment que tout ça est assez délicat et prudemment, ce qu'on décide de faire, c'est de laisser cette question-là en dehors de l'école. Voilà. Et donc, à la limite, et depuis, il y a eu des tentatives pour mettre de l'instruction civique, par exemple. Rowen Augien, lui, il signale que finalement, il n'a rien contre l'instruction civique en tant que telle, si ça a une dimension informative, voilà comment marchent nos institutions, quels sont les droits et les devoirs et les droits des citoyens, puisque ça va ensemble. Donc, on peut discuter de savoir si c'est pertinent ou pas, mais en tant que tel, c'est quelque chose qui peut se justifier, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de connaissances, on voit à peu près de quel type de connaissances il s'agit, ce qu'il faut transmettre en la matière, etc. Bon, la morale, alors là... Autre question, premier paradoxe qui souligne, donc c'est un chapitre, est-ce qu'il est possible d'enseigner la morale? C'est la première question qu'il faut se poser. Première question qu'il faut se poser, et effectivement la difficulté c'est de savoir comment on va l'enseigner, si en fait on va juger des comportements moraux ou des connaissances morales. On a déjà un paradoxe difficile, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de connaître des idées morales, on peut très bien connaître des idées morales et avoir un comportement parfaitement immoral. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on évalue dans cette affaire-là? On évalue la connaissance des idées morales ou on évalue les comportements moraux? Si on évalue les comportements moraux, là, ça devient carrément stimulant parce que il s'agit de faire quoi? Il s'agit de soumettre les élèves à la tentation, de leur donner la possibilité de voler, de leur donner la possibilité de mentir pour voir s'ils sont capables
de résister à la tentation
et d'appliquer des préceptes moraux.
Mais là, est-ce qu'on est encore dans la morale laïque s'il s'agit de résister à la tentation?
On peut en discuter. Ça vient après. C'est une difficulté qui vient après. Mais la question de savoir comment tu l'enseignes, cette morale, c'est une question elle existe au moins depuis le Ménon de Platon.
En septembre, je laisse des bonbons sur mon bureau.
Voilà. tente le coup et évalue. Hein. Et alors donc, c'est une question qui est évidemment aussi vieille que la philosophie morale, c'est-à-dire comment on enseigne la morale ? Est-ce qu'il faut en faire un cours effectivement théorique avec des concepts abstraits, généraux ? Ou bien est-ce que la seule manière d'enseigner la morale, c'est pas d'une certaine manière de donner l'exemple ? Et encore, la question évidemment reste ouverte, quel exemple ? Mais si effectivement il s'agit de donner l'exemple ou de manifester un comportement moral, de l'exprimer voilà, de manière morale, on est absolument pas dans quelque chose qui est susceptible de faire la matière d'un cours et encore moins d'une évaluation. Et en fait, alors il formule ça d'une manière assez rigolote en fait en disant, alors c'est une des formules, il faut que je vous retrouve ça sur la manière d'enseigner ça. Voilà, toutes ces questions philosophiques se ramènent en fait à une seule, plus terre à terre. L'enseignement de la morale laïque devra-t-il ressembler à celui des sciences naturelles ou bien de la natation ? Voilà. Est-ce qu'on évalue un certain nombre de contenus qui vont être, bon, déjà qui sont à définir bien entendu, mais des idées, des théories, des doctrines du passé, ou bien est-ce qu'on évalue le comportement moral des élèves ? Alors, évidemment, poser la question, c'est mesurer qu'on ne peut pas y répondre. D'autant plus qu'on est confronté dans ce cas-là à ce qu'il appelle le paradoxe du catastrophisme. Je trouve ça assez rigolo. Alors, c'est une trouvaille un peu polémique, on va dire. Mais en fait, son idée, elle est assez simple. Elle consiste à dire qu'effectivement, il y a depuis des années, au fond, hein, tout un discours qui consiste à dire que l'école est au plus mal, que l'école court au désastre, que le niveau baisse, que les élèves sont de pire en pire, que les profs, c'est pareil. Enfin, bref. Et donc, discours catastrophiste. Et en fait, donc le discours sur le retour de la morale à l'école s'inscrit dans cette perspective-là, comme une espèce de solution qui viendrait de sauver de la catastrophe, quoi. Alors, pour avoir une idée de ça, vous vous référez aux œuvres complètes d'Alain Finkielkraut, entre autres, ou de gens comme ça, quoi. C'est-à-dire qui développent ce qu'on appelle les nouveaux réactionnaires et qui développent ce discours-là depuis des années à longueur d'onde, d'écran, etc. Lui, Augien, ce qu'il pointe, c'est un paradoxe assez simple qui dit, finalement, si l'école en est à ce point-là, mais qu'est-ce que va bien pouvoir changer des cours de morale dans cette histoire ? C'est-à-dire que si effectivement on est au fond du gouffre, que les élèves, ça y est, c'est cuit, c'est la catastrophe, ils pensent plus qu'à leur intérêt personnel en écoutant le dernier album de Rihanna et en s'achetant des baskets à 300 euros en insultant leur mère respective, que viendra faire un cours de morale laïque dans cette affaire-là ? A contrario, si jamais les élèves n'en sont pas là, et qu'il leur reste effectivement un fond de moralité intrinsèque, quel besoin de leur donner des cours ? Voilà. Donc on a ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'effectivement, si les choses vont si mal, on voit mal comment, justement, un cours de morale laïque pourrait changer quoi que ce soit au problème, et si elles ne vont pas si mal, à ce moment-là, ça veut dire que les élèves n'ont pas nécessairement besoin de ce cours de morale laïque. Donc c'est un petit peu la manière dont il pose ce problème-là, avec ensuite, donc, alors il développe de manière un peu plus poussée que je suis en train de le faire là, c'est-à-dire qu'il va ensuite se poser la question de savoir en quoi il est souhaitable d'enseigner éventuellement la morale, et si finalement le fait de déléguer à l'éducation nationale une mission d'éducation morale ne risque pas finalement de créer plus de dégâts, et d'occasionner plus de dégâts que de donner les bénéfices attendus.
Alors vous pouvez voir là aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je fais le lien, que justement, ces cours de morale laïque qui sont supposés pouvoir un jour peut-être être donnés à l'école, appartiennent totalement au domaine de ce que Augien critique comme étant de la liberté positive. C'est-à-dire être libre, on peut être vraiment libre que si on agit conformément à certaines normes qui sont décidé, éventuellement, par nos élites autoproclamées. Donc, ici, vous avez une cohérence assez nette. D'accord.
Tout à fait.
Pour illustrer le propos qui était un peu abstrait tout à l'heure. Oui. Ici, c'est tout à fait ça.
Et en fait, ce qu'il dit, donc, au fond, là, sur la question de savoir si c'est souhaitable, effectivement, que l'éducation nationale se charge d'enseigner la morale, au fond, lui, il s'appuie sur les principes d'un philosophe, ce qu'on appelle un philosophe utilitariste, qui s'appelle John Stuart Mill, qui est un philosophe du 19e, un philosophe anglais. Et au fond, ce qui donne les principes auxquels Augien, lui, se rattache, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que, finalement, alors, je vous lis ça rapidement, hein, vous avez ça, page 76-77. Donc deux idées de John Stuart Mill exprimées dans deux formules fameuses. La première formule, la seule raison légitime que puisse avoir une communauté civilisée d'user de la force contre un de ses membres, contre sa propre volonté, c'est d'empêcher que du mal ne soit fait à autrui. Le contraindre pour son propre bien physique ou moral ne fournit pas une justification suffisante. Premier principe. Deuxième principe, Il y a une sphère d'action dans laquelle la société, en tant que distincte des individus, n'a, si jamais elle en a un, qu'un intérêt indirect. Il s'agit de cet aspect de la vie et de la conduite d'une personne qui n'affecte qu'elle-même, ou qui, si elle en affecte également d'autres, ne le fait qu'avec leur participation et leur consentement volontaire et en toute connaissance de cause. Fin de citation. Je traduis. La première maxime, ça consiste à dire quoi ? Que finalement, la seule chose qui puisse justifier l'intervention de l'État sur la vie des gens ou sur la manière dont ils conduisent leur vie...
De l'État ou de la société.
De l'État ou de la société, c'est lorsque ces individus commencent à pouvoir nuire à autrui. C'est la seule chose qui justifie une intervention extérieure de la société ou de la part de l'État, à partir du moment où un individu adopte une conduite nuisible à quelqu'un d'autre.
Ce qui implique que l'État n'a absolument, ou la société, n'ont absolument pas le droit d'intervenir quand l'individu se nuit à lui-même.
C'est la deuxième maxime. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il s'agit de ce qui concerne la vie de l'individu ou un accord consenti entre des individus, l'État n'a absolument aucune intervention justifiable dans ce domaine-là. Donc, si l'individu décide de se nuire à lui-même, ben c'est sa souveraineté propre. Si deux individus consentants décident de se nuire à eux-mêmes ou que l'un nuise à l'autre, l'État n'a absolument rien à dire non plus.
Il apporte deux, trois bémols là-dessus quand même. Dans l'État nous rend-il meilleur parce que on ne peut pas totalement... Ce qu'il précise, c'est que certaines de nos intuitions morales communes, pour aller vite... trouverait délicat de justifier le cannibalisme consensuel, par exemple, du type je t'autorise à manger un bout de mon bras, ce qui a pu se produire en Allemagne, semble-t-il, il y a quelques années, ou ce genre de choses. Il précise l'idée de ce qu'il appelle son éthique minimale, qui consiste à qui implique pas finalement que nous sommes pleinement propriétaires de nous-mêmes. Enfin, qui ne suppose pas que nous soyons pleinement propriétaires de nous-mêmes et que par conséquent nous ayons le droit de faire n'importe quoi avec notre corps, y compris le vendre, morceau par morceau, ou ainsi de suite. Mais il va dire plutôt que nous n'avons pas de devoir envers nous-mêmes. Il trouve ça plus solide. Et ça évite de tomber dans justement la justification de ce que j'appelle le cannibalisme consensuel ou ce genre de choses. Donc finalement, son éthique minimale, ça va consister à dire ne pas nuire à autrui. Mais ça implique aussi que, par exemple, la personne qui déciderait de vendre sa force de travail dans un cadre esclavagiste, d'une certaine manière, n'aurait pas le droit de le faire, si on inverse les choses.
Ça, c'est une vieille effectivement objection qui est faite à Mill et puis aux philosophes utilitaristes. C'est qu'effectivement, à partir de quand, dans quelle mesure, enfin, où sont les limites du contrat, quoi, voilà, où sont les limites du contrat entre individus, qu'est-ce qu'on peut effectivement échanger sous la forme d'un contrat. Mais d'une certaine manière, enfin, pour la question qui nous occupe, à savoir la question de la morale laïque à l'école, on n'a même pas besoin de rentrer dans ces détails-là, parce que le principe de base, il est celui-là, c'est qu'effectivement, le seul lieu et le seul domaine dans lequel l'État est légitimé à intervenir, c'est celui qui concerne nos rapports aux autres. Voilà. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est là où on voit la différence qu'il y a entre un projet qui consiste à introduire la morale laïque et l'instruction civique, par exemple. L'instruction civique, de ce point de vue-là, fait partie des attributions de l'État. On peut considérer que ça fait partie des attributions de l'État. Après, on pense qu'on veut de l'existence de l'État, etc. Mais à supposer qu'effectivement l'État ait son mot à dire, l'instruction civique fait partie de ses attributions. Il s'agit d'expliquer les institutions, la manière, les lois, le type de droit, de devoir, etc. Donc, effectivement, ça porte sur des questions qui concernent mon rapport ou notre rapport aux autres. De ce point de vue-là, effectivement, l'État a un rôle à jouer. Mais en matière morale, une fois que l'État a dit qu'effectivement, la seule chose sur laquelle il a à intervenir, c'est lorsqu'il y a des comportements qui sont nuisibles à autrui, ben, il a tout dit. Et dès qu'il s'agit, après, d'être en mesure de proposer des versions de ce que c'est que la vie bonne, du bien, du mal, ou des comportements préférables à d'autres, là, les difficultés commencent, et elles sont proprement insurmontables. C'est-à-dire que, alors, il y a une manière, il le signale, Augien, évidemment, parce qu'il n'est pas naïf là-dessus, il y a une manière de justifier ça, qui consistera à dire que finalement, l'État, implicitement, en dit plus que ça. C'est-à-dire qu'en disant qu'il ne faut pas nuire à autrui, finalement, l'État induit, enfin l'État ou la société, disons, voilà, un point de vue collectif, on va dire, induit que, finalement, une certaine conception de la vie bonne, c'est-à-dire que chacun doit faire en sorte de perfectionner ou d'atteindre le meilleur de ses possibilités. quelque chose de cet ordre-là. Et que ça, par exemple, ça donne déjà une base pour qu'on puisse enseigner une morale qui serait une morale collective, en quelque sorte. Hein. Sauf que, en fait, ça reste très vague, c'est ce principe-là, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une espèce de mission de perfectionnement de chaque individu par le collectif, ça reste vague, et ça donne pas, en tout cas, suffisamment matière à expliquer ce que serait un cours de morale laïque. Et de toute façon, le problème, il est que là, on a une autre contradiction qui se pose, c'est que c'est censé être la morale laïque et la morale de l'État est censée reposer sur l'esprit critique et l'argumentation rationnelle, et que Augien remarque au passage de manière assez malicieuse qu'il n'est pas du tout sûr qu'un échange rationnel et qu'un échange argumenté arrive à des conclusions comme celle-là. Voilà. Donc, arrive à une conclusion unique déjà et arrive à des conclusions comme celle-là d'autant plus. Voilà. D'où la difficulté et le cercle vicieux dans lequel on se trouve, quoi.
Donc nous allons poursuivre notre présentation des thèses de Rouen Augien après un petit interlude musical avec un excellent groupe, comme d'habitude, choisi par José. Voilà, vous venez d'entendre le manifeste, donc une chanson écrite par Étienne Redagil, c'est ça, José? Et donc,
pour
Julien Clerc à l'origine, hein, il l'a refusé et donc il l'a donné aux Verruriers Noirs,
voilà,
qui l'ont racheté à prix d'or et qui l'ont interprété brillamment, avec une boîte à rythme, tout ça pour vous montrer l'esprit taquin de José.
Et moderne.
Donc voilà. Oui, Jean-Mathias, ouais, voulait rajouter que...
Bah que les Berruriers, enfin là on a un exemple de ce que c'est qu'une, voilà, un vecteur de diffusion de la morale laïque, voilà, c'est à la fois très moral et très laïque, et c'est pas qu'une blague, parce que, c'est pas qu'une blague, parce que ça prouve, comme effectivement le dit Augien, qu'il n'y a pas qu'une morale laïque, voilà. Donc alors bon, oui, bon, on continue donc à présenter les textes d'Augien qui nous intéressent ce soir. Donc là en l'occurrence, la guerre aux pauvres commence à l'école, chez Grasset, édité là il y a quelques mois, et donc où il est question finalement du projet de Péon de réintroduire de la morale laïque à l'école. Et donc Augien s'emploie, Rouen Augien, donc philosophe français contemporain, s'emploie à montrer toutes les difficultés, toutes les contradictions finalement, dans lesquelles Péon Payon est obligé de s'empêtrer avec ce projet-là. Et un des arguments sur lesquels il insiste, c'est que, au fond, il y a une certaine naïveté de la part de Payon et de ceux qui en appellent un sursaut de morale laïque à l'école, une certaine naïveté à croire, effectivement, qu'il n'y aurait qu'une seule morale laïque. C'est-à-dire que, en gros, ce que Payon a en tête, alors il cite longuement un entretien que Payon a donné à Libération, où il détaillait un petit peu ses projets. Et d'après Rowen Ogien, finalement, le projet de Payon, c'est celui d'une espèce de, bon, historiquement, d'une morale un peu à la Kant, quoi. Donc, c'est une morale, alors Kant, philosophe allemand, des Lumières, si vous voulez, c'est le philosophe de la morale déontologique, on va dire, hein, de l'idée que la morale, une action est moralement bonne uniquement si elle est suscitée par un sentiment de devoir et de respect de la loi morale. Et qu'en fait, ce qui compte dans une action morale, c'est l'intention dans laquelle elle est faite et non pas ses conséquences. C'est-à-dire qu'une action peut avoir des conséquences pratiquement négligeables, voire même négatives en réalité, du moment qu'elle est faite intentionnellement par respect de la loi morale et pas avec le sentiment du devoir, on peut considérer que c'est une action moralement bonne. Et donc, dans la morale laïque, il y a finalement cette espèce de chimère là, quoi, l'idée d'une morale de l'effort, du respect des autres, du respect de la vérité, du respect de la loi, principe sur lequel il est difficile de débattre si vous voulez, mais le problème il est que l'étiquette et l'espèce d'emballage dans lequel on essaie de nous refourguer ça, c'est-à-dire comme si c'était effectivement le produit de la morale laïque, comme si d'une certaine manière, si on laissait les gens discuter raisonnablement entre eux, échanger des arguments, poser les choses de manière objective, ils allaient tous naturellement arriver à ces conclusions-là. Voilà. Avec ce paradoxe qu'évidemment, il leur faut quand même un prof pour les aider à arriver à ces conclusions-là, et que le prof en sait plus qu'eux sur la question au départ, quand même. Voilà. Je laisse de côté évidemment la question de l'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc on nage là-dedans dans une espèce de mélasse conceptuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit. Alors il y a un moment où il dit ça. Alors faut que je retrouve la page parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes sur l'ensemble. Je vais vous retrouver ça, mais sur cette idée, je trouve qu'est finalement assez fine. Il dit que y compris parmi les penseurs. Bon, l'idée que finalement on peut penser une morale qui soit pas religieuse aujourd'hui. Et une idée qui fait plus tellement de débat, c'est-à-dire qu'effectivement, on trouve chez beaucoup d'auteurs et voilà, par diverses approches, des conceptions de la morale qui supposent pas, voilà, d'arrière-plan religieux particulier.
Indépendamment des auteurs, on trouve beaucoup de pratiques.
Et de pratiques, évidemment, morales.
Plus pratiques qu'on pourrait qualifier de morale, qui n'ont absolument rien à voir avec une religion quelconque.
Évidemment.
Le temps que tu retrouves ça, je peux préciser aussi que vous voyez ici que dans le cadre conceptuel que pose Ogien, si vous vous rappelez ce que j'ai dit en début d'émission, Payon fait partie de la pensée partisan de la pensée conservatrice, qui pense que les principaux maux de notre époque peuvent être réglés par la morale et pas par une éventuelle réduction des inégalités sociales et économiques ou par une espèce de moratoire sur les maltraitances infligées aux sans-papiers. Il y a ce genre de choses.
Évidemment, évidemment. Alors, j'ai retrouvé l'extrait, là. Alors, je vous cite parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Donc, c'est tiré d'un entretien de Payon à Libération. Alors, je vous le cite tel quel, hein, brut de décoffrage. Les thèmes suivants, non hiérarchisés, peuvent donner lieu à un travail sur les maximes, les adages, les morales de fables, mais aussi de lecture de textes, de mise en situation, entre parenthèses, jeux de rôle, dilemmes moraux, etc. Tous ces thèmes peuvent être exploités en classe dans le respect des progressions mises en ligne sur EduxCall, site du ministère de l'Éducation nationale. Bon, bref. Quatre grands domaines sont ainsi proposés. Premier domaine, l'introduction aux notions de la morale, le bien et le mal, le vrai et le faux, la sanction et la réparation, le respect des règles, le courage, la loyauté, la franchise, le travail, le mérite individuel. Voilà, ça c'est le premier thème. Deuxième thème, le respect de soi. La dignité, l'honnêteté par rapport à soi-même, l'hygiène, le droit à l'intimité, l'image que je donne de moi-même en tant qu'être humain, la protection de soi. Troisième thème, la vie sociale et le respect des personnes, les droits et les devoirs, la liberté individuelle et ses limites, l'égalité des sexes, des êtres humains, la politesse, la fraternité, la solidarité, l'excuse, la coopération, le respect, l'honnêteté vis-à-vis d'autrui, la justice, la tolérance, la maîtrise de soi, être maître de ses propos et de ses actes, la sécurité des autres. Dernier aspect, ça c'est la cerise sur le gâteau. Quatrième thème, donc, le respect des biens. Le respect du bien d'autrui, le respect du bien public. Fin de citation. Commentaire d'Ogien, quel rapport entre l'hygiène et l'égalité des sexes? Entre le vrai et le faux, et le travail. Il faut être vraiment très naïf épistémologiquement pour croire qu'on pourra arriver à justifier tout ce bric-à-brac conceptuel par la seule pensée critique ou la réflexion rationnelle. Voilà. Donc on en est là quand même. Hein. Faut pas perdre ça de vue. Alors après, bon, il y a plein de choses, voilà, dont on pourrait discuter évidemment sur ces thèmes. C'est le marketing politique qu'il y a derrière, qui est effectivement proprement ahurissant, si vous voulez. L'idée qu'on puisse, voilà, faire des cours qui vont être évalués, je le rappelle, à partir de ces thèmes-là, c'est-à-dire qu'on puisse définir un contenu de savoir, de connaissance, hein, univoque, puisque voilà, il en faut une de morale laïque, et qu'on puisse ensuite donc transmettre ça, et évidemment que ce serait ça la solution au problème de l'école aujourd'hui. C'est vrai que ça en dit long quand même sur l'espèce de régression intellectuelle et politique qu'on a dans le gouvernement actuel, quoi. C'est assez assez sidérant. Bon, alors je termine rapidement en disant que Augien, voilà, précise un certain nombre de...
Alors, est-ce que tu pourrais préciser peut-être, ouais, excuse-moi, je t'interromps, mais parce que l'émission est bientôt terminée, mais en quoi est-ce qu'il fait, à un moment, il fait le rapport avec la guerre aux pauvres là-dedans ?
Alors, la guerre aux pauvres, elle est, alors, c'est un rapport qui est finalement indirect, mais il me semble que l'argument d'Augien, c'est le suivant. C'est quand on voit la somme de contradictions, d'impasses et de naïveté cumulé qu'il faut pour défendre un projet comme celui-là, il ne faut pas être grand clair, si tu veux, pour comprendre finalement quel est le sens politique d'une démarche comme celle-là. Et le sens politique d'une démarche comme celle-là, encore une fois, je l'ai signalé un peu, je l'ai indiqué au début, c'est que il y a deux choses dans la morale laïque. Il y a l'aspect moral et l'aspect laïque. Alors, comment c'est instrumentalisé ces affaires-là ? L'aspect moral, ça consiste à dire que finalement, l'école a aujourd'hui un problème qui est un problème moral, qui n'est pas un problème de moyens, qui n'est pas un problème, voilà, d'effectifs, de profs, de recrutement, de nombre de classes surchargées, etc. C'est pas ça le problème de l'école, c'est un problème moral. Première option politique. D'accord ? Deuxième option politique, il s'agit d'une morale qui doit être laïque. Ça veut dire que derrière, il y a un message subliminal. Le message subliminal, c'est attention aux hordes de culture musulmane. Voilà. Hein ? Les pauvres aujourd'hui, il se trouve que voilà, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont de culture musulmane ou pas, ou en tout cas on leur assigne une culture d'origine musulmane ou ce genre de choses-là. La combinaison des deux, voilà, l'Augien dit simplement méfiance. Voilà. Si on avance avec cet étendard de la morale laïque, c'est d'une part qu'on occulte les problèmes typiquement économiques ou typiquement d'ordre de moyens qui affectent aujourd'hui l'école et qui sont réels, et on fait diversion en parlant de questions morales. Et si on met derrière un habillage laïque autour de ça, c'est qu'en tête, on a une cible, hein, qui médiatiquement va faire mouche. Voilà. Et qui, dans l'inconscient collectif des journalistes et des médias tels qu'ils existent aujourd'hui, on sait exactement où ça va aller, cette affaire-là. Voilà. En ce sens-là, effectivement, cette histoire de réintroduction de la morale laïque est bien, hein, une guerre, une déclaration de guerre aux pauvres, hein, qui part effectivement de l'école. C'est-à-dire qu'il s'agit plus de se donner les moyens de faire en sorte que, d'assurer une égalité républicaine, pour le coup même républicaine, je veux dire, y compris du point de vue de Payon. Il s'agit plus, voilà, de lutter, y compris contre ceux qui bafouent les vertus de fraternité, par exemple. Il le signale au début. Hein. C'est pas ça l'incivilité, hein, d'après Payon et d'après effectivement tous les gens qui défendent ce type d'approche-là. Hein. Qui aujourd'hui piétine ou prend la fraternité comme un paillasson? C'est pas les élèves des écoles, c'est tapis, quoi. Voilà, faut quand même le dire, hein, à un moment donné.
Son tapis.
Voilà, mais le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là, évidemment. Le problème, il est de ces petits sauvageons, basanés, qui foutent le bordel dans nos classes. Voilà. Et qui ont besoin d'un bon retour, voilà, aux valeurs républicaines, parce qu'après tout, on est chez nous.
Aux valeurs républicaines du Prussien Kant.
Du Prussien Kant, voilà. Donc, bon. Donc, alors, tout ça pour dire que voilà, c'est assez efficace, hein, son petit bouquin. Et la combinaison des deux, donc, encore une fois, le livre dont tu as parlé tout à l'heure, là, l'État nous rend-il meilleur, point d'interrogation, et La guerre aux pauvres, comment ça à l'école, deux livres de Rowan Augien qui viennent de sortir et dont on vous conseille vigoureusement la lecture. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site, hein, jeudinoir.gurdulu.org.
Voilà, on se retrouve dans deux semaines.
All melted, and so is the chrome. Who are the brain police?
plastic's all melted and the chrome is too
the chromium too.